le salon aujourd'hui, je voudrais commencer avec une statistique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il y a environ 2,2 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui qui souffrent d'une déficience visuelle. C'est une statistique remarquable. Quand on sait à quel point nous tenons pour acquis notre capacité visuelle. Et lorsque je voyage en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, j'apporte souvent des paires de lunettes usagées qui ont été données, car le coût de l'achat de lunettes sur place est prohibitif pour la plupart des gens. En fait, selon le même report de l'OMS, près de trois quarts des personnes souffrant de déficience visuelle dans le monde n'ont pas les moyens ou n'ont pas accès à une aide. Cela représente plus d'un milliard et demi de personnes qui ne peuvent pas lire facilement les pages de la Bible, ou peut-être vous êtes en train de lire la Bible sur son portable, mais il ne peut pas même lire les pages de la Bible qui est devant nous au cours de ce sermon. Selon l'association à but non lucratif Magic Sight, basée à Paris, 1,7 million de Français souffrent de déficience visuelle et environ 207 000 personnes sont aveugles en France. Les personnes souffrant de cette maladie en France sont parmi, franchement, les plus chanceuses, car elles ont accès aux services de santé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes dans le monde. Mais quand même, cela ne change rien à la souffrance et la difficulté d'être aveugle. C'est une grande épreuve de souffrir de cécité, une affliction dont il se réjouirait d'être libéré, bien sûr. Et aujourd'hui, j'aimerais partager l'histoire d'un homme qui était né aveugle et qui a été guéri par la suite. Et on est content de lire l'histoire, bien sûr, de sa guérison dans la Bible, mais en même temps, on peut en tirer quelques leçons par rapport à nos propres déficits visuels, non pas nos déficiences visuelles physiques, mais nos déficiences visuelles spirituelles, nos angles morts spirituels. Et lorsque nous avons terminé de lire l'histoire, j'aimerais partager 12 points, oui, 12 points, mais petits points, mais quand même 12 points pratiques que nous pouvons utiliser pour révéler nos angles morts personnels avant la Pâque. Je vous invite à vous rapporter, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens 11, versets 23 et 29. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 29. Et à examiner ce sujet dans le contexte de la Pâque et c'est des jours de pain sans levain. Nous étions, avant l'Assemblée aujourd'hui, nous étions en train de regarder le calendrier hébreu et je crois que c'est demain soir. C'est le premier habit. Peut-être M. Goris peut vérifier ça pendant le sermon, mais je crois que c'est demain soir commence le premier habit, premier Nissan, le calendrier hébreu. Et bien sûr, c'est le 14 qu'on observait la Pâque. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, « Ceci est mon cœur qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez du pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le cœur et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent la coupe. Et finalement, verset 29, car c'est lui qui mange et boit sans discerner le cœur du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Contre lui-même. L'apôtre Paul voulait faire comprendre à l'église de Corinthe que la Pâque n'était pas une fête comme les autres donnée en l'honneur des dieux grecs. Il ne s'agissait pas de s'amuser ou de se retrouver entre amis. Cette fête exigeait une préparation et une réflexion préalable. Elle exigeait qu'ils se regardaient eux-mêmes et qu'ils se demandent si ils imitaient le comportement du Jésus-Christ. Et nous utilisons souvent l'expression s'examiner soi-même, mais la traduction de Louis II ici est se mettre à l'épreuve. Se mettre à l'épreuve. Nous devons passer dans un sens un examen, comme à l'école, et voir quelle note nous allons recevoir. Serait-elle un 20 sur 20 ou un 2 sur 20? On peut avoir. Et pour ce qui est d'imiter le comportement de Jésus-Christ, Paul commence même le même chapitre. Vous pouvez regarder le verset 1 de ce chapitre, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Donc, nous, ça c'est important, ça c'est le point ici. Nous ne pouvons pas examiner les choses. Malheureusement, ça c'est le cas avec nous, que nous ne pouvons pas voir. Il faut regarder, il faut voir les choses en nous. C'est comme faire, par exemple, une dictée à l'école. J'imagine que tout le monde est au courant avec une dictée. Vous écrivez, les mots, mais ce n'est qu'une fois que le professeur à noter votre copie que vous pouvez voir vos erreurs. Je me souviens d'avoir fait une dictée à l'Alliance française ici à Bordeaux et d'avoir pensé que j'avais bien travaillé, mais d'avoir reçu les résultats. Et ce n'était pas si facile de voir cette page pleine de rouge avec toutes les erreurs comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple que nous avons ici. C'est une sorte de test. Donc, le titre de sermon d'aujourd'hui est Découvrir nos angles morts. Découvrir nos angles morts. Commençons donc par examiner l'histoire d'un homme guéri de sa cécité dans Jean 9. Donc, portez-vous, s'il vous plaît, à Jean 9 et on va passer pas mal de temps. On va lire presque toute l'histoire ici parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Donc, reportez-vous à Jean 9, verset 1, et on peut commencer l'histoire, première partie de ce sermon. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Permettez-moi de faire une petite pause, une petite parenthèse ici et de faire un commentaire sur la guérison. Il y a de nombreuses années, dans l'Église de Dieu, peut-être il y a 50 ans, certains pensaient que si nous obéissons soigneusement à tous les commandements de Dieu, nous ne tomberions pas malades. Si nous sommes fidèles à travaillant dur pour éviter le péché, alors Dieu nous protégera de la maladie. Ce passage devrait nous aider à mieux comprendre que Dieu a de plus grands desseins pour nous. Bien sûr, Dieu nous bénit et veut nous protéger de la maladie comme un père aimant, mais S'il y a un objectif spirituel et qu'il souhaite l'accomplir en nous au moyen de la maladie, alors il permet parfois des problèmes de santé, comme il l'a fait dans le cas de cet homme. Voilà, poursuivons au verset 6 maintenant, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, il y a une petite parenthèse, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà, incroyable, incroyable. Voici un miracle. Un miracle. Cet homme maintenant peut voir. Combien de personnes dans le monde ont besoin de ce genre de guérison physique? Mais malheureusement, nous verrons qu'il y a très peu de réjouissance dans la suite, dans l'histoire. Donc ça, c'est juste verset 7, n'est-ce pas? Et on va lire dans les prochaines à peu près vingtaine de versets que l'histoire se tourne vers dans des directions différentes. Verset 8 maintenant. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un médiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Donc ça, c'est la question. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé. Et j'ai pu voir. OK, ça c'est la première fois qu'il rencontre cette histoire. Vous allez voir qu'il va refaire cette histoire à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est la première fois. Imaginez que c'est vraiment un miracle. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais, je ne sais. L'histoire que Jésus raconte commence à entrer dans les détails et dans le processus à suivre. Donc, remarquez verset 13 maintenant. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Ça, c'est important, parce que ça, c'est un des points et leçons de cette histoire. C'est le pharisien maintenant. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, encore une fois, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Verset 16. Ce quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Nous voyons l'histoire se dérouler maintenant. Le Christ nous parle des pharisiens et la dureté de leur cœur et sur le fait qu'ils ne portaient pas leurs attentions sur la bonne chose. Il est dans les détails de toutes sortes. Ils ne peuvent pas voir le plus grand chose devant eux. En interrogeant cet homme sur la guérison de la cécité, ils étaient eux-mêmes aveugles à leur propre dureté de cœur. Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusque ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites était né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Parlera de ce qui le concerne. Donc, il est clair qu'il y a un problème. Il y a un problème ici. C'est que ses parents ont peur des autorités. Verset 22. Ses parents dira cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc, il est clair qu'il y a un prix à payer pour cette guérison. Il y a un problème. Les parents savent que si ils en disent plus, ils risquent d'être sanctionnés par les pharisiens, par les autorités. Un miracle s'est transformé même en une épreuve pour cet homme et pour sa famille. Donc, tout est tourné, tout est mal tourné. Continuez verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça, c'est le point. Ça, c'est le point essentiel de cette histoire. Et maintenant, nous sommes dans verset quoi, 24, 25, et les pharisiens sont en train de trouver toutes sortes d'excuses. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ce monsieur était maintenant un petit peu frustré, un petit peu fâché peut-être. Ils l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. D'où elle est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exerce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honorait et fait sa volonté, il l'exauce. Verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entière dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Donc, la fin de cette histoire, c'est que cet pauvre monsieur ne peut pas assister au synagogue. Dès que ce moment-là, pouvons-nous voir l'angle mort de pharisiens? Ils l'ont littéralement chassé de la synagogue. Leur propre frustration et leur colère les ont conduits à ignorer la bonté évidente de ce qui avait été fait ici. Ils n'ont pas pu se réjouir de ce miracle avec cet homme. Ça criait un argument, ça a crié la frustration, ça a crié la colère, ça a crié l'injure. Tout est bien mal tourné. Je crois que bien oui, vous pouvez voir ça. Mais comme il est facile de voir le problème chez les autres, ou dans une histoire comme celle-ci, comme celle-ci, mais de ne pas voir nos propres attitudes qui doivent changer. Donc, elle est plus facile, bien sûr, de voir ça. À maintes reprises, Jésus a confronté à leur propre hypocrisie, l'hypocrisie des pharisiens, ceux qui prétendaient suivre Dieu. Mais si vous considérez un instant que Jésus a enseigné à ses disciples, parce que ça, c'est franchement pour ses disciples. Pour ses disciples, ce qu'il ne fallait pas faire. Il savait que le jour viendrait, Jésus, bien sûr, il sait que le jour viendrait où ils devraient administrer et diriger eux-mêmes l'Église. Il savait que le jour viendrait où ils devraient avoir la sagesse et le discernement nécessaires pour ne pas simplement suivre leurs penchants et leurs tendances humaines naturelles, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, ils devraient se poser des questions difficiles sur eux-mêmes. Alors, la question pour les pharisiens et la question pour nous est la suivante. Comment pouvons-nous permettre à Dieu de nous révéler nos angles morts? Comment pouvons-nous permettre à Dieu de nous révéler nos angles morts? Ça, c'est difficile parce que c'est un angle mort. On ne peut pas voir même les choses. Alors, avec le temps qui reste, je souhaite partager avec vous 12 points, façons différentes dont Dieu peut vous révéler ces choses que vous ne pouvez pas voir en vous-même maintenant, en moi-même. Nous parlons souvent des choses à un certain niveau élevé, mais aujourd'hui, je veux être aussi pratique que possible. Alors pour chaque point, je vais vous donner un verset biblique qui est la base biblique de ce point. Et c'est à vous de déterminer comment cette méthode peut vous aider. Peut-être cette méthode ne peut pas, c'est pas applicable à vous. C'est à vous à déterminer. Comprendre et identifier nos propres angles morts pour constituer une étape cruciale vers le développement personnel pour nous et l'amélioration de nos relations humaines, mais surtout avec notre Créateur. Et avant la Pâque, je crois que c'est essentiel. Les angles morts sont des domaines dans lesquels nos perceptions, nos pensées, où nos comportements ne sont pas totalement visibles à nous-mêmes, tout en ayant un impact négatif important sur notre vie. Voilà, on va commencer avec notre 12 points. Premier point, demandez l'avis des autres. Demandez l'avis des autres. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 15, verset 22. Proverbe. Donc, vous pouvez compter, il y a à peu près 12 passages qui restent. Proverbe 15 et verset 22. 15, verset 22. Les projets échoués, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. L'un des moyens les plus efficaces de découvrir nos angles morts consiste à demander l'avis d'autres personnes en qui nous avons confiance, que vous avez confiance. Il peut s'agir d'amis, de membres, il peut s'agir des amis, membres de la famille, des collègues ou les coachs, les mentors. Nous devons être ouverts à recevoir leur point de vue et éviter d'être sur la défensive. Un retour d'infos constructives peut mettre en évidence des domaines d'amélioration que vous n'auriez pas envisionnés avant. Il est important de demander conseil à des personnes qui ne se contenteront pas d'être d'accord avec nous, mais que seront directs et honnêtes quant à nos faiblesses et la façon dont ils se tenaient traités par nous de temps à autre. Donc, demander l'avis des autres. Premier point. Deuxième point. Journal de réflexion. Journal de réflexion. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Lamentation 3. Lamentation 3, on ne regarde pas beaucoup le livre de Lamentation. Ça, c'est juste après le livre de Jérémie. Lamentation, chapitre 3, verset 40. C'est bien de lire ça ici. Journal de réflexion. Jérémie 3, 40. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Tenir un journal dans lequel vous réfléchissez régulièrement à vos pensées, vos sentiments et vos comportements pour vous aider à identifier des schémas et des incohérences par rapport à ce que vous professez être. Notez les incidents ou des interactions spécifiques et analysez-les sans vous justifier en mettant le blâme sur les autres pour vos réactions. Pour éviter ça, bien sûr. Ce processus de autoréflexion peut vous faire prendre conscience de certains aspects cachés. En notant les choses, vous pouvez également revenir sur des événements du passé, parce que vous pouvez regarder dans le journal, peut-être il y a un an, oui, j'ai fait la même chose ici. Des grands hommes et des femmes de l'histoire ont tenu un journal, comme Marco Polo, Léonard de Vinci, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Winston Churchill. Et bien sûr, le verset biblique que nous venons de lire était le journal de réflexion inspiré de Jérémie sur la chute de Jérusalem. Les paroles de Salomon dans l'Ecclésiaste ont été inspirées par Dieu, mais il a pris également le temps d'écrire les choses dans un journal. Nous suivons les traces d'hommes et des femmes sages, si nous envisions de tenir un journal pour réfléchir à nos comportements. Donc, prendre un journal. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, journal de réflexion. Troisième chose, pleine conscience, méditation et prière. Pleine conscience, méditation et prière. Reportez-vous, s'il vous plaît, à l'Psaume 46, l'Psaume 46 et verset 11. L'Psaume 46 et verset 11. Je crois que c'est intéressant ce verset. 46, verset 11. J'espère que vous pouvez lire avec moi. Le verset commence avec le mot arrêter. C'est drôle comme mot. Arrêter. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, cela veut dire faites une pause. Réfléchissez et tournez vos pensées sur Dieu. La méditation est un principe biblique discuté en détail dans la Bible. La pratique de la pleine conscience et de la méditation vous permet de devenir plus conscient de votre état intérieur. Ces pratiques nous aident à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, ce qui nous permet de remarquer des thèmes récurrents ou des angles morts qui pourraient influencer notre comportement. Aujourd'hui, avec nos portables, Mon portable est dans la chaise, pas ici avec moi, mais avec notre portable constamment à côté de nous, nous évitons souvent les moments de calme. En défilant ou en écoutant de la musique. Or, les recherches montrent que c'est lorsque l'on s'ennuie que l'esprit commence vraiment à travailler. C'est vraiment ça. J'ai assisté à une conférence en décembre où l'oratrice nous a dit qu'il fallait trouver une activité physique ennuyeuse qui permettent à notre cerveau de réfléchir. C'est drôle à penser, hein? Elle a dit que lorsqu'elle commençait à balayer le sol, son cerveau commençait à travailler. Parce qu'elle est en train de... C'est ennuyeux, n'est-ce pas? Balayer le... Mais ses pensées commencent. Son esprit commençait vraiment à réfléchir. Pour certaines personnes, c'est la marche. Quoi qu'il en soit, nous devons passer du temps sans portable, sans portable, sans technologie et sans distraction. Nous devons prendre le temps de méditer et de prier parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines choses, non, certains angles morts qui ne peuvent pas peut révéler sans la prière, sans méditation, comme l'orgueil, par exemple. Et que seul Dieu peut nous révéler si on lui demande sincèrement par la prière. Alors, pleine conscience, méditation et prière. Quatrièmement, évaluation de la personnalité. Wow, qu'est-ce que c'est ça, évaluation de la personnalité. Donc, s'il vous plaît, reportez-vous aussi à 1 Corinthiens 9 et verset 22. 1 Corinthiens 9. Et verset 20, 22. Il y a un certain contexte ici, mais je crois que vous pouvez voir le point essentiel. C'est que souvent, nous croyons que tout le monde est comme nous. Et pourquoi cette autre personne ne peut pas penser comme moi? Pourquoi elle est si difficile? 1 Corinthiens 9 et verset 22. Il dit, j'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait toute à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. L'apôtre Paul parle de s'adapter à toutes sortes de personnes différentes et d'ajuster son style pour mieux s'adapter aux autres. Donc il faut comprendre notre style, n'est-ce pas? Paul comprenait sa forte personnalité. Mais il était prêt à se rendre faible pour concentrer avec les personnes plus faibles. Savoir évaluer votre personnalité peut vous donner un aperçu de vos forces et de vos faiblesses. Il vous permettre de comprendre comment vous réagissez par rapport à les réactions des autres. L'un des outils les plus connus est l'indicateur de type Myers-Briggs. C'est MYERS, Myers-Briggs, BRIGGS. Vous pouvez taper sur Internet et vous trouver. Mais il y en existe beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Je me souviens en 2004, j'ai entendu un ministre de l'Église de Dieu uni qui a utilisé le test de l'indicateur Myers-Briggs pour montrer comment les quatre évangiles reflètent les différents types de personnalités de leurs auteurs. C'est vraiment intéressant. Il a montré dans son sermon qu'en fonction de notre type de personnalité, nous aurons une affinité avec l'un ou l'autre des auteurs des évangiles. Personnellement, j'aime l'évangile de Marc. Parce que j'aime que l'histoire soit très réelle et qu'elle entre dans les détails. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Marc, parce qu'il est très réel. D'autres aiment les thèmes généraux qu'elle entre et profonds de l'évangile de Jean. des narratifs très longs avec les histoires que nous avons lues, par exemple, il y a un instant dans Jean 9. Tandis que d'autres encore appréciaient la nature systématique du livre de Luc. Comprendre notre style nous aidera à voir nos faiblesses et nos angles morts potentiels. On peut comprendre davantage. Ah ouais, c'est pour ça que cette personne ne me comprend, parce que pour moi, c'est un point fort, mais peut-être pour lui n'est pas, et ça, c'est pour moi, c'est un point de faiblesse. Voilà, donc, style de personnalité. Numéro 5, coaching. Coaching ou consulter un thérapeute. Coaching. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 20, verset 5. Proverbe, chapitre 20 et verset 5. Proverbe, chapitre 20 et verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait il puiser. Travailler avec un coach ou un thérapeute professionnel peut fournir un environnement structuré pour la découverte de soi. Ces professionnels sont formés pour nous aider à explorer nos pensées, nos comportements et nos émotions en nous guidant dans les domaines qui pourraient être des angles morts. Nous mettons, nous, facilement en colère? Sommes-nous facilement déprimés? Et aussi le ministère de l'Église peut nous aider dans ce domaine. Mais bien sûr, le ministère doit avoir reçu une certaine formation aussi. Donc, moi, je suis formé dans un certain domaine, peut-être je peux vous aider. Dans d'autres domaines, non. Vous pouvez aller voir un professionnel. C'est pourquoi il peut être utile de trouver aussi un mentor ou un coach, quelqu'un d'expérimenté et de formé. Le risque que j'ai constaté sur ce point est que nous recherchons souvent des personnes qui sont d'accord avec nous. Pour que le coaching fonctionne, nous avons besoin de quelqu'un qui nous pose des défis, qui nous force à nous remettre en question. Donc, numéro 5, c'est coaching ou consulter un thérapeute. Numéro 6, observez vos réactions. Observez vos réactions. Donc, s'il vous plaît, reportez-vous au Proverbe 16 et verset 32. Ça, c'est juste quelques pages avant. Proverbe chapitre 16 et verset 32. 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes, qui prend les villes. Prends le temps d'être conscient de notre comportement et clé pour être maître de lui-même. Prends le temps d'être conscient. Tant des gens se laissent dominer et sont dirigés par leurs émotions, par leurs émotions. Nous devons prêter attention à nos réactions émotionnelles dans diverses situations. De fortes réactions émotionnelles peuvent être le signe de problèmes spirituels sous-jacents ou d'un angle mort. Il peut s'agir à la base peut-être d'un traumatisme d'enfance, d'un abus, d'une peur profonde, mais aussi de l'orgueil ou même d'un sentiment d'infériorité. Analysez les raisons de vos réactions, analysez les raisons de vos réactions et ce qu'elles révèlent quant à vos perceptions et vos véritables croyances. Donc, observez vos réactions. Tous les points comme plus ou moins être conscient de choses qu'on fait. Numéro 7. Accepter la diversité des points de vue. accepter la diversité de points de vue. Le point de vue ici, ce n'est pas une question de doctrine. Hein? Ce n'est pas une question de doctrine. C'est une question de point de vue concernant les différentes choses dans la vie. S'il vous plaît, reportez-vous à Galates 3, verset 28. Moi, je trouve ce verset très intéressant parce que dans le monde maintenant, on peut voir les différences d'ethnie, les différences de culture. Et aussi, à la même temps que l'apôtre Paul, il y avait le cas aussi. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous dans l'Église, nous sommes tous dans ce corps du Christ, mais nous avons tous nos backgrounds, nos ethnies, notre expérience. Dieu a appelé des personnes de cultures, de milieux différents. Aujourd'hui, l'Église de Dieu uni compte des membres dans 60 pays du monde. Je me souviens lorsque je vivais en Thaïlande il y a longtemps, j'ai passé une semaine à parcourir le pays avec un membre de l'Église thaïlandaise. Sa façon de penser était tellement différente de la mienne. Les Thaïlandais ont tendance à communiquer de manière indirecte, indirecte, et à éviter les refus catégoriques. Alors que ma culture américaine, et certainement maintenant ma culture française, est de parler directement, n'est-ce pas? Nous sommes très directs ici en France. Mais les Thaïlandais communiquaient aussi beaucoup plus par le langage corporel, avec le sourire, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis content ou j'ai honte ou je n'ai pas d'accord? On ne sait pas. Il faut vérifier le contexte avec les mots. Nous avons tous, les deux, ce monsieur et moi, fait un effort pour comprendre la réaction de l'autre et accepter que l'autre personne n'essaie pas de nous embêter parce que c'est difficile. Mais que c'était simplement notre culture et notre style. Il y a aussi un problème de langue. Nous avons parlé en anglais et en thaï, la plupart du temps en thaï. Donc, c'est pour moi, c'est ma deuxième langue. Et pour lui, c'est son langue primaire. Donc, nos échanges sont différents et aussi les langues sont différentes. Je peux aller dans plus de détails, mais l'idée, c'est que j'espère que vous pourriez vous entourer de personnes d'origine et de points de vue divers. Ça, c'est très important. Pour nous, dans l'Église, c'est une bénédiction, en particulier, d'avoir plusieurs de visiteurs lors de la fête des tabernacles. Nous avons des gens qui viennent de divers pays. Souvent, il y a plus de 10 pays. Les gens qui viennent de 10 pays pour la fête des tabernacles. Donc, il faut avoir des conversations avec des personnes avec une diversité de points de vue. Et quand on a avoir cette discussion, on peut voir, ah, OK, pour moi, ça, c'est quelque chose d'important, mais pour lui, c'est moins important. Pourquoi c'est si important pour moi? Peut-être c'est quelque chose que je ne comprends pas assez profond pour moi. Donc ça, c'est accepter la diversité des points de vue, numéro 7. Numéro 8, procéder à des auto-évaluations régulières. Procéder à des auto-évaluations régulières. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13 et verset 5. 2 Corinthiens 13 et verset 5. Ça, c'est aussi un passage important avant la Pâque. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc, c'était mon plan d'avoir une liste pour vous aujourd'hui. Je ne peux pas le trouver. Il y a une liste qui était créée par un ministre de l'Église il y a plus de 20 ans. Mais j'ai trouvé cette liste très utile. C'est une liste des questions, à peu près 10 ou 12. Quand je trouverai la liste, je vais vous amener ou peut-être la semaine prochaine, on peut distribuer cette liste. Beaucoup d'entre nous qui ont travaillé dans des grandes entreprises savent que chaque année, nous allons recevoir une évaluation de nos performances. Cette évaluation comprend une liste de nos points forts et des domaines que nous devons améliorer. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Le Pâques devrait être l'occasion de nous évaluer nous-mêmes et de déterminer les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. L'auto-évaluation de nos comportements, de nos décisions et de nos interactions est un moyen par lequel Dieu peut nous révéler nos angles morts. Donc, si je ne peux pas trouver cette liste, j'espère que vous pouvez même faire votre propre liste. Quelles sont les choses que vous devez améliorer cette année? Quelles sont les choses qui étaient créées à une distance entre vous-même et Dieu? Quelles sont les choses que créent des problèmes dans votre vie? Et quelles sont les choses que vous pouvez demander à Dieu de vous aider pour mieux comprendre? Procédez à des auto-évaluations régulières. Point numéro 8. Point numéro 9. Lire et s'informer. Lire et s'informer. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 1 et verset 5. Proverbe 1 et verset 5. Si je peux trouver Proverbe 1, verset 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et c'est lui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Donc, la lecture et l'étude de la parole de Dieu peuvent nous aider à mieux nous voir comme Dieu nous voit. Donc, bien sûr, on dit lire la Bible. C'est pourquoi nous avons le programme de lecture de la Bible. C'est pourquoi on parle toujours de lire les choses dans la Bible. Dans cet exemple, par exemple, les proverbes. Les proverbes, les psaumes, les récits de patriarches dans la Genèse nous aident à voir comment Dieu travaille avec son peuple et comment il veut travailler avec nous. En outre, de nombreux livres et articles sur l'amélioration de soi et l'intelligence émotionnelle peuvent nous éclairer sur les points faibles les plus courants. S'informer sur ces sujets peut nous aider à reconnaître les domaines dans lesquels nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons de mal. Donc, prends le temps de lire, prends le temps de faire des recherches, de renseigner. Bien sûr, commence avec la Bible, parce que toute la sagesse est dans la Bible. Lire et s'informer, numéro 9. Numéro 10, pratiquer l'écoute active. Pratiquer l'écoute active. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Jacques 1, verset 19. Jacques, chapitre 1, et verset 19. Jacques, chapitre 1 et verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Améliorer nos capacités d'écoute en pratiquant l'écoute active est un excellent moyen de mieux nous comprendre. Il s'agit de comprendre véritablement ce que les autres disent, sans les interrompre, ni planifier sa réponse. Cela peut nous aider à mieux comprendre comment les autres nous perçoivent. Certaines personnes peuvent être confuses à ce sujet, pensant Comment l'écoute peut-elle m'aider à me voir moi-même? Bien souvent, lorsque nous parlons aux gens, nous n'écoutons pas vraiment. Nous planifions simplement ce que nous allons dire ensuite. Si nous écoutons vraiment, nous pourrions entendre ce que l'autre personne veut nous dire et aussi nous pourrions mieux percevoir leurs besoins émotionnels du moment. Cela signifie qu'il faut observer son langue corporelle, comme j'ai mentionné avec mon ami en Thaïlande, et chercher à comprendre si elle essaie de nous dire quelque chose d'une manière délicate. Parce que de temps en temps, les gens sont en train de dire quelque chose délicat à nous, et nous, on ne peut pas voir vraiment leurs intentions parce qu'on n'écoute pas assez active. Voilà, écoute active. Numéro 11, analyser nos décisions. Analyser nos décisions. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 3, versets 5 à 6. Ça, c'est très connu, ce passage, souvent cité. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez écrire dans un note et mettre quelque part dans la maison. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc ça, c'est très connu, très important. Prenons-nous des décisions en ayant soigneusement réfléchi à la manière dont notre Père céleste et Jésus-Christ voudraient que nous agissions? Ça, c'est la question avec le verset ici. Examinez les décisions que vous prenez et le raisonnement sous-jacent. Demandez-vous si vos décisions sont influencées par des préjugés ou des hypothèses qui pourraient être des angles morts. Réfléchir aux raisons pour lesquelles nous avons fait certains choix peut révéler des domaines à améliorer. Pour moi, en réfléchissant à ma vie, j'ai découvert que chacune des mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie était le résultat d'un problème non résolu dans ma vie. Nous voulons souvent penser que nous n'avons pas eu de chance ou que les gens ont voulu profiter de nous, mais si nous prenons le temps d'examiner attentivement les décisions que nous prenons et les raisons pour lesquelles nous les avons prises, nous verrons probablement un angle mort dans notre vie. Avons-nous pris cette décision par peur? Par blessure, par orgueil, l'examen de ces éléments peuvent s'avérer surprenant et révélateur. Donc, analysez vos décisions. Et enfin, numéro 12, fixez des intentions et des objectifs. Fixez des intentions et des objectifs. Reportez-vous, s'il vous plaît, à l'Psaume 33, verset 11. Le psaume 33 et verset 11, ça c'est l'exemple de notre Créateur pour nous. Le psaume 33, verset 11, il dit: Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu a un plan pour nous, il a un plan pour l'univers. Il a un plan pour tout. Et on peut avoir aussi un plan. On peut suivre son plan et avec son plan en tête, on peut écrire aussi nos objectifs. À l'approche de la Pâque et des jours de pain sans levain, nous devons planifier d'enlever le levain de nos maisons, n'est-ce pas? J'espère que vous avez déjà commencé ou peut-être vous pouvez commencer bientôt. Et cette analogie, et bien sûr, là, pour nous amener à réfléchir à notre plan pour enlever le levain spirituel de nos vies. Quel est notre plan pour éliminer ce comportement qui nuit à votre capacité à avoir une relation durable avec notre Créateur, avec un membre de notre famille ou avec nos amis? Fixer des intentions et des objectifs précis en matière de développement personnel. En ayant des objectifs clairs, vous pouvez mesurer vos progrès et identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention en mettant l'accent sur les angles morts. Cela demande du travail. Il faut prendre le temps d'écrire les choses et d'y jeter un coup d'œil chaque jour sur les objectifs. Certaines personnes écrivent les objectifs sur une note autocollante qu'elles plaçaient sur, par exemple, le miroir de leur salle de bain. Peut-être quelques parmi vous ont fait ça. Une petite note jaune, écrit ça, mettre sur le miroir. Chaque matin, on peut voir l'objectif là. D'autres écrivent un verset biblique spécifique et le placent sur le frigo, par exemple. Voilà, il peut voir toujours le verset biblique sur le frigo pour s'en souvenir. Que ferez-vous pour vous fixer des objectifs et les atteindre? Voilà, 12, 12 points en conclusion. J'espère que ces 12 points pour révéler vos angles morts vous ont été utiles. J'espère aussi que cette histoire de l'homme dans Jean 9, né aveugle, vous a aidé à voir à quel point les pharisiens étaient aveugles face à leur propre comportement et les risques que nous courons d'être comme les pharisiens. Parce que ça, c'est vraiment le point. Quel est le point pour nous? De voir que nous avons aussi des angles morts aussi si évidents que les pharisiens dans l'histoire, mais on ne peut pas le voir. L'identification et la reconnaissance de nos propres angles morts est un voyage permanent qui exige de l'engagement, de l'humilité et la volonté de grandir. En recherchant activement un retour d'information, en réfléchissant à nos actions, en adoptant le plein conscience, tout en demandant à Dieu de nous aider à voir nos angles morts, et en utilisant la sagesse trouvée dans la parole de Dieu, nous pouvons découvrir et traiter le comportement négatif dont nous ne sommes pas conscients. La cécité physique est franchement un problème grave dans le monde. Mais honnêtement, la cécité spirituel est bien pire. Jésus a dit à ses disciples de se méfier des aveugles qui conduisent les aveugles. Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Ne soyons pas aveugles spirituellement. Cherchons à nous voir comme Dieu nous voit. Merci. Bien, bon sabbat.